Kiosque Magazine.
Jeudi 19 février, nous allons vous parler d'économie et d'emploi parce que c'est notre mandat. Quand je dis notre mandat, je suis très, très fier d'utiliser un nous qui n'a rien de royal puisque ça y est, il est de retour. Éric de Belval, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je me suis ennuyé. Voilà, c'est pas Rémi, par contre. Rémi, lui, ça lui... Non, ça, rien. pas même une petite larme, voilà. Rentrons immédiatement dans le vif du sujet.
Oui, Éric, oui, oui. Écoutez, alors, pour essayer de pas trop... Enfin, pour me faire pardonner mon absence, je vais revenir un peu sur la Saint-Valentin. Vous savez qu'un président des États-Unis, c'est très célèbre, avait dit qu'il y avait deux choses certaines dans la vie, la mort et les impôts. Hein, je crois que c'était Roosevelt. Eh bien, la Saint-Valentin, elle s'achève, la saison des impôts commence, et c'est une façon, comme une autre, de constater la véracité de cet adage. Mais qu'en est-il exactement de la situation fiscale des conjoints? Le fisc s'intéresse beaucoup à cette question, et conformément à ses habitudes, il ne fait, lui, pas de cadeaux, pas plus aux amoureux qu'aux autres. Et puis ensuite... On retourne à Kakuna, ça fait longtemps qu'on n'y avait pas été. On se rappelle l'abandon récent du projet de port pétrolier par TransCanada.
Abandon, c'est vite dit, attention.
Oui, alors, oui, peut-être je vais un peu vite. Hein. C'était la deuxième fois que l'entreprise renonçait à un projet majeur dans ce village du Bas-Saint-Laurent, mais cette fois, ce n'est pas pour des raisons économiques. C'est une vive controverse qui, en s'amplifiant, a forcé la main de la compagnie pétrolière ou va forcer la main de la compagnie pétrolière. Alors, où est-ce qu'on est-on? Comment se comporte le pouvoir politique dans cette affaire? Comme d'habitude, on verra. Et puis, pour terminer, retour un petit peu sur la Grèce, parce qu'il faut vraiment suivre cette affaire de près. Pas seulement pour observer et comprendre les difficultés d'un système complexe et mal unifié comme l'Union européenne, mais aussi parce qu'on assiste à un mélange de genres inquiétant. Hein, quand l'économie et la morale se rencontrent derrière une tentative de moratoire pour rembourser une dette colossale, eh bien, on se demande si elle n'a pas été constituée en dépit du bon sens. Et les pays voisins eh bien, deviennent non plus des partenaires, mais des juges, et pas tellement bienveillants.
Et oui, oui, effectivement, pour en parler, il y a un chaud débat à faire là-dessus. De mon côté, je m'en venais ici ce matin et je pensais au plongeon olympique. Pourquoi plongeon olympique? Parce que quand un plongeur, oui, saute du tremplin, il y a une note pour la perfection de son plongeon, bien sûr, mais aussi une note, un coefficient de difficulté qui s'applique et qui vient bonifier sa note. Et c'est exactement ce que je vous demande aujourd'hui, un coefficient de difficulté pour mon sujet qui va parler de réchauffement climatique, parce que je le sais que c'est pas crédible à Montréal ces temps-ci. Et oui, la planète se réchauffe partout ailleurs, pas ici. En tout cas, pas dans ma boîte à mal à moi. Je sais pas qui a donné mon code postal à l'hiver, mais il l'a. Ensuite, je vous parle de purge, d'austérité, parce que Francine Pelletier a pondu un brûlot sur l'austérité. Elle parle aussi de la Grèce, à titre d'exemple. J'aurais pas pu ne pas le lire. Et moi aussi, puisque Saint-Valentin ne le fait pas, je vais assurer le service après-vente du 14 février et vous parler d'amour en ouverture, puisque José Blanchette, elle... se demander si on pouvait appliquer l'économie à l'amour. Et ça me rappelle un texte que vous m'aviez fait lire récemment qui comparait Houellebecq à l'économisme. Vous allez voir que José Blanchette le fait peut-être avec un peu plus d'humour et moins de noirceur. Tout ça, ça commence dans quelques instants. Donc, chose promise, chose due, je vous parle d'amour, comme ça, en commençant l'émission, sur un ton léger, parce qu'on est le 19 février, parce qu'il neige encore, parce que ça n'a plus rien de romantique rendu en 19 février, la neige, disons-le franchement. Donc, un texte, le libre-échange de l'amour, l'économie pour réparer les mariages. José Blanchette, Le Devoir, 13 février 2015. Les économistes peuvent vraiment tout faire, prédire parfois l'avenir, en se fiant au passé, tâter le pouls du présent et même rafistoler des mariages. Le jour n'est peut-être pas si loin où nous irons nous épancher avec eux pour comprendre ce qui cloche dans nos unions volatiles. À l'heure où un mariage sur deux se termine en eau de boudin, pourquoi pas un matheux épris de graphique et de lettres grecques pour nous sortir du pétrin? Car l'amour, ce n'est pas que des bons sentiments nappés de ganache. C'est aussi une question de logique, de pouvoir, d'offre et de demande, de marché, de libre-échange, de division des tâches, de concession, de coûts de renonciation, qui rime avec fidélité, de troc et de projection dans l'avenir. En fait, le mariage est une micro-économie à laquelle s'appliquent sensiblement les mêmes règles que pour n'importe quelle micro-entreprise. Les deux gestionnaires ont des pouvoirs égaux, officiellement, et le marché fluctue selon les aléas de la bourse, avec un B majuscule ou pas, ça dépend des cas, et la confiance des investisseurs. Tant pour la fréquence des relations sexuelles que pour l'éternelle question du partage des tâches et de la coparentalité, l'économie vient à notre rescousse de toutes sortes de façons inattendues. Deux auteurs américaines nous le prouvent dans Spousonomics, or How to Maximize Returns on the Biggest Investment of Your Life. 2000 personnes ont participé à ce livre au moyen de questionnaires et d'entrevues menées aux quatre coins des États-Unis. Les auteurs sont convaincus que l'économie peut vaincre l'inertie et l'habitude et qui viennent avec tout bon mariage et qu'on pourrait traduire par « myopie du consommateur » sans poser de jugement de valeur, sans discrimination entre les sexes, sans psychanalyser à outrance, en appliquant des solutions logiques pour dépassionner les querelles, les rancœurs et les reproches qui tarissent la source vive. Oui. Pour désamorcer les argumentations illogiques et émotionnelles, il faut simplement surmonter notre aversion pour la perte, accepter de dire bof et, ah oui, se clouer mutuellement le bec en forniquant un peu plus. Surtout qu'un sondage dans Spousonomics nous apprend qu'un tiers des couples continuent à se chicaner même s'ils savent qu'ils ont tort et un autre tiers même s'ils ont oublié pourquoi. Ça m'est déjà arrivé et à vous aussi. Quand je dis « m'est déjà arrivé », on aura compris qu'il s'agit de l'auteur, bien entendu. Si vous êtes en couple depuis plus que deux semaines, la question de la division des tâches a émergé assez rapidement. La vaisselle s'est empilée pour cause de vol nuptial. Égalitarisme oblige, la tendance des dernières décennies voudrait que l'on divise tout à 50-50. Mais d'un point de vue strictement économique, ce partage n'est ni réaliste ni rentable. On s'en aperçoit sur le terrain. Voilà pourquoi il existe des départements et des spécialisations dans une entreprise. Ainsi, je me suis vite aperçu que de laisser mon économiste de mari planifier et cuisiner les repas la moitié du temps amputait sérieusement ses journées et nos loisirs. Et me laisser faire les comptes relevait de la même arithmétique. Valait mieux orienter efficacement les tâches selon nos compétences respectives. C'est la théorie appliquée du libre-change. Et le temps épargné peut être consacré à faire autre chose de plus ludique. Selon les auteurs de Spousonomics, nous gaspillons temps et énergie à vouloir tout faire nous-mêmes au nom de l'équité. Un désastre annoncé. Finalement, le mariage est aussi fait de négociations, compensations, gains, pertes, filiales et faillites. En 2007, le Pew Research Center publie un sondage sur ce qui fait fonctionner le mariage. En premier lieu, la fidélité. En second lieu, le sexe, évidemment avec la personne aimée, bien sûr. Et en troisième, le partage des tâches. Et mieux vaut remiser notre besoin voulant que tout soit juste et équitable. Le mariage, c'est tantôt son tour, tantôt mon tour, parfois les deux en même temps. On songe au divorce quand ce n'est jamais nous. Prenons le dossier chaud du sexe. Elle ne recule devant rien, cet auteur. Nos auteurs consacrent un long chapitre à cette question cruciale qui justifie bien des mariages de déraison. Elle explique que lorsqu'une chose coûte trop cher, on la désire moins. Ça, c'est initiation à la vie économique au secondaire, si le cours existait encore. Comment le sexe peut-il coûter trop cher? S'il vous prive d'un sommeil précieux, si les enfants ne sont pas couchés tôt, si vous êtes toujours celui, celle qui doit se taper toutes les tâches domestiques, si vous avez du rattrapage professionnel à faire à la maison, si la lecture de Proust vous semble plus délectable que la position de la sauterelle libidineuse, etc. L'ordonnance du docteur? Faites descendre les enchères. Contentez-vous d'un échange culturel rapide. Un coït à la va-vite. De temps à autre, envoyez des signaux à votre partenaire lorsque le moment semble propice, plutôt que d'attendre qu'il ou elle, surtout il, devine. Faites-le plutôt que d'en parler. Bref, sautez sur chaque occasion, même si elle n'est pas précédée d'un verre de bulle et d'un bain de minuit au spa. Le perfectionnisme tue tout, surtout le désir. En terminant, les fluctuations de la bourse et celles du mariage sont assez similaires. La confiance doit régner. Si l'on se met à regarder son conjoint comme une valeur négligeable, il le devient inévitablement. Si on le traite comme la meilleure affaire de notre vie, tout le monde nous l'envie et en voudrait aussi. Le principe économique de l'utilité marginale décroissante s'applique également au mariage. Le plaisir va décroissant à l'usage. La première gorgée de bière est meilleure que la dernière. L'usure nous guette tous. On peut bien s'en remettre à un livre de recettes, à des économistes ou à l'astrologie, mais au final, certains ont le flair pour l'investissement, d'autres non. Certains pratiquent l'évasion fiscale, d'autres paient leurs impôts. Certains ont le cul bordé de nouilles, d'autres pas vraiment de bol. Et le reste, c'est kiff-kiff bourricot, comptant au crédit pour le meilleur et pour le pire.
Quand même un petit commentaire, parce que j'ai bien noté que vous avez expliqué que finalement, le sexe, bon, on s'en lasse comme de tout, etc. Mais j'insiste, puisqu'il a été cité, c'est pas Proust, c'est impossible de se lasser de Proust. Absolument impossible.
Vous allez finir vieux garçon. Est-il quelque chose de moins romantique, de plus détaché des contingences du cœur, finalement, que l'impôt sur le revenu?
Oui, bah, François, je vois que tous les arguments seront utilisés pour faire fondre la glace qui nous submerge en ces temps difficiles, et y compris les délires sur le fisc. Mais bon, le fisc, il a un cœur de pierre. Hein. Ou plutôt, il n'a pas de cœur, pas de cœur du tout. Oui, pas de cœur du tout. Et à la place de cet organe totalement inutile pour lui, une poche énorme destinée évidemment à recevoir nos contributions. Alors par contre, il a une capacité à s'exprimer. Ça ne veut peut-être pas dire qu'il est forcément un cerveau, mais en tout cas, il s'exprime à travers des lettres ou des lois, pas toujours très claires, mais aux effets redoutables. Alors ça a intéressé Stéphanie Gramont, qu'on cite souvent ici, dans la presse du 16 février, un bel article qui s'appelle « Quand le fisc brise le cœur des amoureux ». Je ne veux pas jouer la rabat-joie après la Saint-Valentin, mais l'occasion est trop belle de vous mettre en garde contre le fisc qui joue de très mauvais tours au nouveau couple. L'automne dernier, le vérificateur général a d'ailleurs fustigé Revenu Québec à cet égard. Elle a quelque chose contre Revenu Québec, Stéphanie Gramont, parce que très, très souvent, elle sort son couteau.
Non, attention, c'est Revenu Québec qui a quelque chose contre tout le monde.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'ai oublié ma situation personnelle, il suffit de ça pour me rappeler dans quel camp il faut être. Pour mieux comprendre, je vous raconte l'histoire d'Evelyne, qui s'est fait un conjoint il y a environ 2 ans. Alors, je ne sais pas, qui s'est fait un conjoint en français de France, ça a tout autre sens.
Oui, non, attention au calembour douteux ici. Attention au calembour.
Oui, écoutez,
cette émission devient scabreuse.
Non, j'essaye
juste. Alors, si vos enfants ne sont pas levés encore, laissez-les au lit.
François, j'essayais juste de vous imiter, là. Vous ne pouvez pas m'en faire le reproche, quand même. Donc, il y a environ 2 ans, avant leur rencontre, ils recevaient tous deux le crédit à la solidarité et le crédit de TPS. Par la suite, ils ont continué de les recevoir par paiement direct, même s'ils s'étaient déclarés conjoints de fait dans leur déclaration de revenus. Mais récemment, Evelyne a réalisé que leurs revenus étaient trop élevés pour qu'ils aient droit à ces crédits qui diminuent en fonction du revenu familial. Elle a téléphoné au fisc, qui a confirmé son appréhension. Les paiements ont cessé et le couple a été obligé de rembourser plus de 1 000 $ au total. Si je n'avais pas appelé, il ne l'aurait jamais su. Mon chum était un peu frustré, m'a-t-elle avoué. Mais si elle avait attendu plus longtemps, avant de sonner l'alarme, les sommes à rembourser auraient été beaucoup plus dures à avaler, car le fisc peut récupérer le trop versé jusqu'à 3 ans en arrière. Pour certains couples, les répercussions peuvent être catastrophiques. Prenons 2 personnes seules qui gagnent environ 30 000 $. À ce niveau, elles ont encore droit au montant maximal du crédit de TPS et du crédit à la solidarité. Des cadeaux de 1 370 $ par année chacun. Coup de foudre, les deux tourtereaux se rencontrent et font désormais vie commune. Avec des revenus familiaux de 60 000 $, ils n'auront plus droit à rien. À deux, c'est une somme de 2 740 $ qui leur échappe. S'ils ne préviennent pas le fisc, imaginez la galette que le gouvernement risque de leur réclamer 3 ans plus tard. C'est encore pire lorsqu'il y a des enfants dans le portrait. Imaginons une mère qui élève seule ses 2 enfants avec un salaire de 32 000 $. Elle rencontre un célibataire qui gagne 48 000 $. Ça clique. En formant une nouvelle famille, la mère perdra 10 000 $ par année en prestations diverses. Solidarité, TPS, soutien aux enfants, prestations canadiennes pour enfants. Les conséquences sont encore plus douloureuses quand 2 familles monoparentales s'unissent pour former une famille recomposée. Et oui, l'amour fait mal, au portefeuille du moins. Pour éviter que le gouvernement vous demande de rembourser des sommes astronomiques, il faut donc présenter immédiatement votre nouveau chum au fisc. En fait, il faut l'aviser avant la fin du mois qui suit celui où vous êtes devenu conjoint de fait, soit 12 mois après le début de votre relation conjugale.
Immédiatement après votre mère.
Oui, finalement. Bien sûr.
Mettez ça dans le protocole, finalement. J'ai un nouveau chum ou une nouvelle blonde, je le présente à maman et à l'impôt.
Oui, c'est bien ça. Ouais, je trouve que c'est un beau modèle social. Bon. Qui devez-vous informer au juste? Revenu Québec pour le crédit à la solidarité, l'Agence du revenu au Canada pour le crédit de TPS et la prestation fiscale canadienne pour enfants, la Régie des rentes du Québec pour le soutien aux enfants, la Régie de l'assurance maladie du Québec pour la prime d'assurance médicaments. Alors, les règles fiscales sont déjà assez compliquées comme ça. Il me semble qu'on pourrait simplifier la vie des contribuables en leur fournissant un seul point de chute pour éviter qu'ils aient à informer la terre entière de leur union conjugale. N'allez pas croire qu'il suffit de vous déclarer conjoint de fait dans votre déclaration de revenus pour avertir tout le monde. Ce serait trop simple. En fait, l'ARC ajuste automatiquement vos paiements en fonction du statut matrimonial que vous inscrivez dans votre déclaration. Mais pas Revenu Québec. Vous l'avez bien lu. Le fisc, qui est pourtant capable de croiser mille et une banques de données, ne va même pas voir dans votre déclaration si vous avez déclaré un conjoint de fait pour ajuster votre crédit à la solidarité en conséquence. Autrement dit, le fisc ne parle pas au fisc. Aberrant. Il s'agit d'un problème de grande ampleur qui nous coûte des dizaines de millions par année. À preuve, près du quart des bénéficiaires qui reçoivent le crédit à la solidarité en tant que personnes vivant seules se présentent néanmoins comme des conjoints de fait dans leur déclaration de revenus, a constaté le vérificateur général, après avoir analysé un échantillon de 55 000 contribuables. Misère. Le processus instauré par Revenu Québec est clairement déficient. Pourtant, la création du crédit à la solidarité en 2011 a nécessité des investissements de 35 millions de dollars en informatique, ainsi que l'embauche d'une équipe de près de 200 personnes à temps plein. Bon an, mal an, Québec verse à 2,7 millions de ménages la somme de 1,7 milliard de dollars, soit un quart de plus que ce qu'on avait prévu. Revenu Québec est en train d'apporter les correctifs pour donner suite aux recommandations du vérificateur. Le ministère des Finances s'affaire aussi à simplifier le crédit à la solidarité. Il y a du pain sur la planche. Au fond, la seule excuse qu'on peut leur trouver, c'est de créer quelques emplois en faisant n'importe quoi.
J'ai brisé un cœur comme un pot de fleurs. Je l'ai échappé, pas même ramassé. J'ai brisé un cœur, pas n'importe quel, le seul qui battait dans mes deux oreilles. J'ai brisé un cœur comme la dernière fois que la grande peur s'était levée en moi. Mais cette fois-ci, je vais m'en occuper.
Comme un petit oiseau, allez le briser.
Je vais le tenir entre mes mains d'enfant,
lui injecter de l'amour et du bon temps.
Ah, ah, ah. J'ai brisé un cœur, l'ai laissé mi battant.
Alors, juste au cas où le fisc n'y serait pas parvenu, ben, Ariane Moffatt, elle, a brisé un cœur de plus. Voilà, c'est fait. Ça m'amène à vous. Bon, rentrons dans des sujets plus. Y a-t-il quelque chose de plus sérieux que l'amour? Mettons que les économistes, quand ils parlent d'argent, s'estiment plus sérieux que l'amour. Alors,
le vin, peut-être?
Oui. Alors, Francine Pelletier, dans les pages du Devoir, s'est payée une chronique qui est une vraie sortie, faisant référence notamment à la situation grecque sur laquelle on aura l'occasion de revenir en fin d'émission. Je vous en donne lecture. Ça a été publié le 18 février 2015. C'est donc officiel, pardon, le titre, « Les bienfaits toniques de la purge ». Moi, j'aurais mis la saignée, mais bon, elle a utilisé la purge. C'est donc officiel. L'économiste Pierre Fortin confirme non seulement que nous vivons des temps durs, mais que nous sommes des champions de l'austérité. Sur un total de 13 pays, le Québec serait le troisième, après le Japon et l'Australie, parmi les austériens. Étonnant quand même. L'austérité dont personne n'a soufflé mot durant la dernière campagne électorale. L'austérité qui a eu des effets contraires à ceux recherchés, admet aujourd'hui le Fonds monétaire international. L'austérité qui a mis la Grèce au bord de la faillite et qui pourrait créer l'effondrement de la zone euro. Ce fléau des temps modernes serait terriblement prisé ici au Québec, non seulement par le gouvernement Couillard, mais également, en jugé par des sondages, par les Québécois eux-mêmes. Comment une idée qualifiée, selon le prix Nobel en économie Paul Krugman dans The New York Review of Books, d'inefficace et même de dangereuse, peut-elle exercer une telle emprise? Curieusement, la notion est adoptée en pleine toundra canadienne à l'Iqaluit, dans le noir et la froidure. On est en février 2010, 2 ans après la pire crise économique depuis 1929, et les ministres des Finances du G7 sont réunis au sommet. Souvent, ces rituels ne riment pas grand-chose, mais cette fois, c'est tout le contraire. Dans l'isolation du désert canadien, les leaders du monde des finances s'entendent pour dire que l'économie prenant du mieux, le temps est venu de détourner l'attention de la croissance économique. Comme des alchimistes, relate Krugman, nos leaders embrassent alors l'idée d'austérité. La décision est d'autant plus surprenante qu'elle est contraire aux mesures adoptées durant les 3 récessions précédentes, 75, 82, 91, on peut même parler de la récession de 29. Contrairement aussi au manuel d'économie d'usage, les conditions qui pourraient justifier des coupes massives, la surchauffe, l'inflation, n'existent pas à l'époque. Et tout le monde sait que réduire les dépenses gouvernementales augmente aussi le chômage. Alors, pourquoi? La Grèce, évidemment, inquiète. Sa dette faramineuse est en train de devenir un problème, non seulement pour le petit pays de 11 millions d'habitants, mais pour l'Union européenne elle-même. De plus, 2 économistes de Harvard, Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, font un tabac avec leur théorie selon laquelle aucune économie ne peut maintenir une dette supérieure à 90 % de son produit intérieur brut. Or, la dette grecque, en 2010, est de 130 % de son PIB, 177 % aujourd'hui d'ailleurs. La thèse de Reinhart et Rogoff a plus d'influence sur le débat public que peut-être tout autre article dans l'histoire de l'économie, dit Paul Krugman. On connaît la suite. En Grèce, plus d'1 million de chômeurs, 26 % de la population, 180 000 petites et moyennes entreprises en faillite, une dégringolade de 27 % de son PIB, du jamais vu depuis la crise de 29, fermeture brutale de la radio-télévision publique, répression policière. Un désastre économique et social, dit un rapport de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. La Grèce a bien sûr sa part de responsabilité dans ce chaos, mais la responsabilité majeure repose avec la Troïka, la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque européenne, dont le plan de sauvetage ne consistait pas à sauver la Grèce, mais à sauver les banques européennes, dit un article de Mediapart. Ainsi, seulement 10 % des crédits accordés à la Grèce seront vraiment utilisés pour soutenir l'économie du pays et sa population. Tout le reste n'a servi qu'au système financier. Pourtant, malgré l'échec patent, la Troïka joue toujours la dure, refuse d'effacer une partie de la dette grecque. De plus, la théorie de Reinhart et Rogoff est aujourd'hui discréditée pour cause de méthodologie boiteuse et les données étaient fausses ab initio. Alors, encore une fois, pourquoi? Pourquoi cette conversion massive à une religion qui rend aussi malheureux? Les politiques néolibérales à l'honneur aujourd'hui comptent bien sûr pour beaucoup, mais il faut également tenir compte du facteur psychologique. La morale voulant qu'il faille payer pour ses péchés, pour ses excès, est une idée très répandue, dit l'économiste et chroniqueur du New York Times. À peu près tout le monde y souscrit à titre individuel. Ce qui explique pourquoi, malgré le manque de résultats probants, l'austérité gagne les cœurs et les esprits. Ça va faire mal, même très mal, mais vous allez voir, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Les bienfaits toniques de la purge, n'est-ce pas précisément le discours du gouvernement Couillard à l'heure actuelle? Personne ne conteste encore une fois le besoin de revoir des programmes, de gérer de façon efficace et responsable. Mais de voir un gouvernement le mort aux dents a de quoi inquiéter. Et Francine Pelletier qui termine là-dessus. Je trouvais ça très intéressant parce qu'on vit vraiment une époque de discours unique en termes d'économie. Une époque où, par exemple, John Maynard Keynes n'est plus du tout à la mode. Évidemment, Marx, lui, est mort depuis longtemps et peut-être pas pertinent au problème. Mais je trouve ça intéressant qu'on le remette en cause.
Ah, quelques nouvelles d'Uber. Ces bons concurrents des taxis, ben, ils ne lâchent pas prise. Hein. Ils veulent convaincre le gouvernement provincial et les municipalités de changer la réglementation parce que l'entreprise affirme qu'il y a un vide juridique dans cette histoire en prenant les exemples des États-Unis qui ont modifié les réglementations. Alors, est-ce qu'ils y arriveront? Je ne sais pas.
Oui, si la loi m'empêche de faire affaire, c'est que la loi est mauvaise, donc changeons la loi. C'est toute la logique d'Uber. Restons dans les transports pour parler de transport aérien. Vous qui revenez d'Europe l'avez probablement constaté. Il faut maintenant enregistrer ses bagages sur Air Canada. Son premier bagage, ça coûte 25 $. Son deuxième aussi, d'ailleurs. Tout pour faire de l'argent. Ça devrait rapporter à peu près 50 millions de dollars à Air Canada cette année, qui a décidé de vouer ces profits-là à ses actionnaires, puisque les bons actionnaires méritent de faire des profits, en plus de ceux consécutifs à la baisse du prix du carburant. Et la même semaine, Calvin Ravinescu s'est plaint que les aéroports canadiens facturait beaucoup trop de droits aux compagnies aériennes, ce qui détournait les voyageurs du transport aérien chez nous.
Ça m'ennuie que vous disiez du mal d'Air Canada, cette merveilleuse compagnie.
On fait une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième moitié de cette émission.
Vous écoutez Kiosk Magazine.
Deuxième partie de cette émission et on commence sur des chapeaux de roue parce que, bon, il fut une époque où quand on avait un bon tuyau pour quelqu'un, on lui permettait de gagner aux courses. Maintenant, on lui permet de gagner au pétrole.
Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, vous savez qu'avec l'abandon de son projet de port pétrolier à Kakuna, TransCanada se trouve à laisser tomber son deuxième projet majeur dans ce village du Bas-Saint-Laurent. Et comme je vous le disais en présentation, cette décision n'est pas le résultat d'un calcul économique, mais d'une vive controverse, d'une lueur d'espoir, hein, parce que ça montre aussi que de temps en temps, descendre dans la rue, si on peut dire,
ça change les choses,
monter sur le fleuve, ça peut donner quelque chose. Bien. Alors, où est-ce qu'on en est? Ça a intéressé Alexandre Shields dans Le Devoir du 14 février. Un port de perdu, un pipeline de trouvé. Redites-moi, François, j'ai honte. On dit pipeline ou pipeline?
Ici, on va dire pipeline.
Oui, d'accord. Mm-hmm. Merci.
Mais en France, on va dire un pipeline.
On va plutôt... Oui, on va dire un oléoduc, normalement, mais vous m'avez dit qu'on hésitait sur cette...
Oléoduc est un emploi ici aussi, oui.
Bon, d'accord. Bon, la réconciliation...
Ah, Radio-Canada, mais Radio-Canada va fermer.
Bah oui, ça, évidemment, on prend toute la place, on les comprend. Bien. L'entreprise connaissait pourtant bien le secteur de Kakuna. Ce n'est pas la première fois que TransCanada s'intéresse à ce port. En 2007, la multinationale avait eu le feu vert des libéraux, non, je plaisante, hein, vert, je l'ai doublé, c'était pas dans l'article, des libéraux de Jean Charest pour la construction d'un imposant port destiné à importer du gaz naturel liquéfié. Le décret publié en plein été donnait le droit à l'entreprise de mener des travaux en milieu marin de juin à octobre. La période, comme on sait, la plus critique pour les Belugas, qui fréquentent le secteur, notamment pour y mettre bas. Et j'ai bien compris cette fois définitivement que ça n'avait rien à voir avec le caviar. En fait, l'autorisation accordée par les libéraux ne prévoyait aucune mesure de protection pour l'espèce, qui était pourtant déjà classée menacée de disparition en vertu des lois québécoises et canadiennes.
Mais qui ne votaient pas à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs.
Ouais. Mmh. Oui, j'ai pas l'impression que ça évolue vraiment. La construction du port aurait d'ailleurs pu provoquer les mêmes effets dommageables irréversibles pour les belugas. Leur situation, quoique similaire à celle qu'on connaît aujourd'hui, n'avait cependant pas provoqué de levée de bouclier, comme cela était le cas avec le projet de port pétrolier. Fait étonnant, avant même d'avoir terminé son étude d'impact sur le projet de Kakuna, TransCanada a commencé ses travaux en milieu marin. Des levées sismiques ont été réalisées au printemps. Ceci devait être suivi de forages menés en pleine période de fréquentation intensive du secteur par les femelles belugas et leurs jeunes. Malgré les impacts environnementaux majeurs relevés par des spécialistes de l'espèce, ni Québec ni Ottawa n'ont cru bon d'exiger des avis scientifiques avant d'autoriser ces travaux. Et si je ne m'abuse, cette position a été réitérée hier par le gouvernement Couillard. Il aura fallu que le Centre québécois du droit de l'environnement entame des démarches judiciaires pour que TransCanada se décide à demander un certificat d'autorisation au gouvernement. Le ministre David Hurtel l'accorde, et ce, malgré les refus répétés de la pétrolière de lui fournir un avis scientifique sur son projet. Dans un jugement particulièrement sévère, une juge de la Cour supérieure conclura en septembre à une faille dans le processus décisionnel du ministre. Cela dit, on est quand même encore dans la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, selon que vous serez pétrolier.
Riche ou puissant, hein, oui.
Bref. Malgré les constats judiciaires et scientifiques, le Premier ministre, Philippe Couillard, affirme dès le lendemain que les travaux doivent reprendre à Kakuna. Il faut dire que les libéraux ne cachent pas leurs préjugés favorables envers le projet de pipeline. Le ministre de l'Énergie, d'accord, Pierre Arcan, a lui-même livré un plaidoyer en sa faveur, et ce, après avoir participé à un souper financé par TransCanada. Ah, comme quoi la bonne nourriture, ça libère l'esprit. Bon. Pour le moment, le seul processus d'évaluation en cours est justement celui mené par Ottawa. Le fédéral a donc un contrôle total sur l'étude du dossier qui doit être achevé d'ici 15 mois. Et la question des impacts environnementaux de l'exploitation du pétrole des sables bitumineux est totalement exclue de l'étude. Sur le plan économique, Québec n'a toujours pas en main une évaluation indépendante des retombées. La construction, limitée à un peu plus de 2 ans, doit permettre de créer des centaines d'emplois selon TransCanada. Ça, c'est toujours le même truc, le même argument, vérifiable, et qui agit comme un épouvantail qui serait destiné à rassurer. Mais une fois terminé, le pipeline nécessiterait le maintien de 60 emplois directs selon les documents déposés à l'ONE. En contrepartie, le gouvernement devrait évaluer les coûts associés à un déversement, répètent les groupes environnementaux depuis des mois. Bref, pour avoir l'heure juste, il reste fort à faire pour le gouvernement du Québec. S'il veut mettre en pratique ce qu'il répète depuis des mois, il devra d'abord convaincre TransCanada de déposer un avis de projet. Il faudra ensuite étudier l'ensemble des risques environnementaux, indiquer les zones les plus critiques et d'éventuelles mesures de précaution, évaluer les impacts économiques, traiter de la question de l'acceptabilité sociale, statuer sur la capacité d'intervention en cas d'incident et finalement formuler des recommandations. Tout cela devrait être terminé avant l'automne 2015, soit à temps pour les audiences fédérales dont les règles ont été fixées par le gouvernement Harper. Quand on voit l'ampleur de la tâche, le retard pris, on se demande bien comment on pourra faire ça dans un délai aussi court.
Et je rappelle que dans les règles fixées par le gouvernement Harper, l'Office national de l'énergie a le droit de dire que c'est bon pour l'économie, mais elle n'a pas le droit de dire que c'est mauvais pour l'environnement parce qu'on va y mettre plus de sable, de gaz à effet de serre puisqu'on va produire plus de pétrole.
Ouais.
Mais bon.
Les prochaines semaines seront donc cruciales pour déterminer quel rôle jouera véritablement le gouvernement du Québec dans un dossier qui pourrait provoquer une vive contestation. Après tout, plusieurs municipalités, MRC et citoyens ont déjà manifesté leurs inquiétudes par rapport au passage du pipeline. Mais maintenant que le port pétrolier de Kakuna est écarté, est-ce que l'élément central du projet, soit le pipeline lui-même, sera plus facile à faire passer ? Avec ce premier projet à se concrétiser, puis celui de TransCanada, le Québec verra couler 1,4 million de barils de pétrole chaque jour vers son territoire. Si on ajoute à cela le transport de pétrole par train jusqu'à Sorel-Tracy, puis son chargement à bord de pétroliers, il est de plus en plus évident que le Québec est sur le point de devenir le point de passage le plus stratégique au pays pour l'exportation de pétrole de schiste et celui des sables bitumineux. Pour le moment, aucun de ces projets n'a fait l'objet d'une évaluation environnementale, sociale ou économique selon la législation québécoise. On est ahuri.
Oui, je le disais en début d'émission, c'est difficile à croire vu de Montréal, mais la planète se réchauffe et ça fait peser beaucoup, beaucoup d'angoisse, notamment sur la sécurité alimentaire de l'humanité au complet. C'est-à-dire, on ne prendra pas des petits sujets là, on va attaquer ça sérieusement. Alors, je vous parle de sécurité alimentaire planétaire à l'occasion d'un texte publié par Jean-Louis Santini de l'Agence France-Presse dans la presse du 16 février. Un texte intitulé « Le réchauffement rend incertain la sécurité alimentaire mondiale ». L'accélération du réchauffement climatique fait peser de fortes incertitudes sur la production agricole mondiale dans les prochaines décennies, ont averti dimanche des scientifiques, jugeant inévitable de profonds changements de la société pour y faire face. Nous pourrons nourrir le monde en 2050, mais pour cela, il faudra prendre des mesures pour minimiser les effets du changement climatique sur la production agricole, a estimé Jerry Hatfield, directeur du Laboratoire national américain pour l'agriculture et l'environnement. Il a expliqué lors d'une présentation à la conférence de l'American Society for the Advancement of Science, l'AAAS, réunie à San Jose, en Californie, qu'il faudra doubler la production alimentaire dans les 35 prochaines années pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera la planète en 2050 contre 7 milliards aujourd'hui. Ce sera l'équivalent de ce que l'agriculture mondiale a produit depuis 5 siècles. Mais l'extrême volatilité des précipitations dans les grandes plaines de culture américaines, par exemple, l'accroissement de la sécheresse couplé à une montée des températures, affecte les rendements agricoles, ce qui nécessite d'agir pour minimiser le réchauffement, a-t-il insisté. Au niveau mondial, la capacité actuelle d'utilisation des terres et la productivité vont continuer à dégrader les sols, a-t-il ajouté. Il y a de très grandes probabilités que les températures vont continuer à augmenter dans le Middle West, le grenier à céréales des États-Unis, que les sécheresses seront plus sévères et que les très fortes précipitations vont se produire régulièrement, a souligné Kenneth Kunkel, un climatologue de l'Agence américaine océanographique, et atmosphérique, qui a étudié l'impact du réchauffement sur les cultures de maïs dans le Middle West. La plus grande menace à la sécurité alimentaire, tout au moins pour le Middle West, est la sécheresse. La sécheresse, a affirmé ce scientifique devant la conférence annuelle de l'AAAS. Les grandes plaines américaines vont probablement connaître au 21e siècle des sécheresses bien pires que celles du dernier millénaire, menaçant ses habitants, avaient annoncé jeudi d'autres scientifiques au premier jour de la conférence. Leur prédiction repose sur des simulations effectuées avec 17 modèles informatiques sur l'évolution du climat. Le changement climatique se produit tellement vite que nous allons faire face à une situation sans précédent dans l'histoire de la civilisation humaine, face à laquelle nous n'avons aucune expérience, a relevé le climatologue. Si nous pouvons, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, freiner le réchauffement, nous pourrions avoir plus de temps pour trouver des solutions, selon lui. Mais cela ne paraît pas se produire, vu l'absence de consensus dans la société pour agir contre le changement climatique, a-t-il déploré. James Gerbert, un expert agricole de l'Université du Minnesota, a noté que parmi les mesures utiles face au risque de crise de la production alimentaire figurait une réduction de l'énorme gaspillage dans la consommation ainsi qu'une diminution de viande rouge dans le régime alimentaire. Cela permettrait de réduire la taille des cheptels et leur impact environnemental. Ils sont responsables de 15 % des émissions mondiales de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Il n'a pas non plus écarté un recours plus étendu aux récoltes OGM. Ce chercheur a identifié des facteurs un peu préoccupants, comme la diminution des réserves mondiales de céréales qui réduit la marge de sécurité alimentaire. Il s'est aussi inquiété du fait que la plus grande partie de la production céréalière soit concentrée dans des régions vulnérables au réchauffement. Pour Jerry Hatfield, il va falloir, malgré ces contraintes, accroître les rendements des cultures en recourant à la génétique et à une gestion différente de l'environnement. Plus sombre, Paul Ehrlich, plus sombre, oui. Président du Center for Conservation Biology à l'Université Stanford, a estimé que nous sommes confrontés à un problème gigantesque qui va nécessiter un véritable changement social et culturel sur toute la planète et nous avons très peu de temps, a-t-il lancé. Si nous avions 1000 ans pour résoudre le problème, je serais très relax. Mais nous avons peut-être 10 ou 20 ans, a ajouté l'universitaire. Alors voilà, regardez bien votre steak ce midi si vous en mangez un. Et il est peut-être parmi les derniers que l'humanité pourra consommer.
Comment veux-tu qu'on survive? On est tout au salaire minimal. Y'a pas de danger de faire une overdose avec des miettes. Une mordée de pavé, c'est tout qu'est-ce qu'il me reste à manger. Travailler, c'est trop dur, puis voler, c'est ben trop haut. Les gâteux, les séniles, qui tiennent le gouvernail, ils sont même pas rendus compte que le bateau est plus dans l'eau. Moi, c'est vrai, je fais pas grand chose, je tourne en rond dans mon salon. Les ronds du poêle, les ronds de fumée, les tours d'horloge, les ronds de café. Par changer, mais j'aime bien mieux rêver que de faire des cauchemars à l'année. Les lendemains qui chantent, mais jamais pour moi. Les lendemains qui se plantent, les lendemains qui penchent. Toujours sur le même bord. Comment veux-tu qu'on survive? On est tout au salaire minimal. Y'a pas de danger de faire une overdose. Y'a pas de danger de faire une overdose. Y'a pas de danger de faire une overdose avec des miettes.
Urbain des Bois qui chantait l'austérité avec ce merveilleux néologisme servicitude. Ça nous amène donc à parler, puisqu'on en est d'austérité, reparlons de la Grèce.
Oui,
reparlons de la Grèce et plus précisément des réactions autour de pays dont on aurait attendu peut-être un peu plus de compréhension.
Ah oui, mais on peut comprendre aussi leurs réactions. Alors, on citait tout à l'heure La Fontaine, on va rester dans les fables. C'est un peu la cigale et la fourmi, hein. On connaît la fable. Dans la réalité, les choses peuvent prendre une certaine gravité. Ici, la fourmi, c'est les pays de l'Union européenne qui estiment avoir fait des efforts, auxquels se refuse la Grèce, qui commence à lui tourner le dos. Donc, les voisins dont on parlait tout à l'heure et dont on évoquait les réactions. C'est un article de la Tribune de Romaric Godin du 16 février. Dans les négociations entre la Grèce et la zone euro, Athènes compte bien peu d'alliés. Le nord de l'Europe fait pour le moment bloc avec Berlin. Certains, comme le premier ministre finlandais Alexander Stubb, étant particulièrement en pointe dans le discours du respect des règles et des engagements. L'Italie et la France ne se montrent guère empressées de soutenir le nouveau gouvernement grec par peur de s'aliéner l'Allemagne. Restaient les pays qui ont été sous programme européen et qui subissent encore le coût du poids important, plus important même que la Grèce. Irlande, Portugal, Espagne, Chypre, c'est à eux qu'on va s'intéresser. Intuitivement, on aurait pu croire qu'Alexis Tsipras trouverait là des appuis dans la négociation. Mais cette intuition était fausse. Les gouvernements irlandais et portugais se montrent fort durs face à la Grèce. En Irlande, on ne cesse de répéter que le pays a fait son devoir et que la Grèce doit en faire autant. Au Portugal, dès le 6 février, le ministre de l'économie, António Pires de Lima, avait exclu toute renégociation sur la dette avec la Grèce. Le Portugal a fait le choix de la voie la moins facile, a-t-il rappelé, en ajoutant que la Grèce devait suivre cet exemple. L'Espagne ne se montre pas moins dure, dans la lignée de son étroite alliance avec Berlin, inaugurée à la fin de l'été 2014. Reste Chypre, qui peine à trouver réellement une position prise entre la solidarité hellénique et sa volonté d'être un modèle. Mais de toute façon, Chypre pèse peu dans le débat. Quelles sont les raisons de cette dureté des pays victimes de l'austérité? Deux réponses sont généralement avancées. D'abord, celle de l'efficacité économique. L'Espagne, l'Irlande et le Portugal ont fait des réformes et en récoltent les fruits. Ils invitent donc les Grecs à en faire autant. Cette logique est absurde. Les Grecs ont également fait des réformes et ont aussi retrouvé en 2014 la croissance. Mais l'ampleur du coût payé par les Portugais et les Irlandais en termes de richesses perdues n'a rien à voir avec ceux des Grecs. Pour une raison simple que les idéologues ne veulent accepter. Les situations de départ étaient fort différentes. Et je fais un petit aparté. Il est intéressant ce mot d'idéologue parce que c'est presque un synonyme d'économiste quelque part. Hein.
Oui, maintenant oui.
L'Irlande était un pays riche et industrialisé. Le Portugal dépend fortement de l'Espagne et a abaissé un coût du travail déjà faible. L'Espagne avait surtout un problème bancaire qui a été contenu partout. Rien de comparable avec la situation grecque. Par ailleurs, aucun de ces pays n'a retrouvé son niveau de richesse d'avant la crise. Le succès, entre guillemets, de l'austérité demeure donc encore à prouver, surtout au regard de ses conséquences économiques plus vastes. À moins de considérer que l'on ne doive mesurer le succès que sur les améliorations de déficit public et de retour sur les marchés financiers. Le deuxième argument est moral et est avancé par les ministres portugais et irlandais, mais aussi par les Baltes, par exemple. Nous avons souffert, souffrez vous aussi. Là aussi, c'est absurde. Aucun pays en Europe n'a subi un ajustement aussi violent que les Grecs. Comment des pays qui ont vu leur produit intérieur brut reculer de 10% au maximum peuvent estimer qu'un recul de 25% n'est pas encore suffisant et qu'il faut faire plus? Par ailleurs, rappelons que le gouvernement de Dublin, qui a bénéficié d'une restructuration de la dette détenue par la BCE, Banque Centrale Européenne, en 2013, semble moralement assez mal placé pour donner des leçons sur ce sujet. Un aparté, ça me rappelle ce qu'avait dit très tôt Dominique Strauss-Kahn. Bon, on sait qu'il s'est illustré sur d'autres terrains par la suite, mais quand il avait eu comme première réaction, il faut immédiatement penser à prendre ses pertes. Je pense qu'on là, on était dans le réel et qu'on aurait pu démarrer là-dessus. Alors que là, on s'enfonce dans des délires d'idéologues. Quelles sont donc les vraies raisons de cette dureté? Elles sont deux. La première est financière. Irlande et Portugal sont revenus récemment sur les marchés. Le retour est lié à la garantie implicite donnée par la BCE aux obligations d'État de la zone euro par le programme OMT, mais qu'on a commenté là il y a quelques semaines, mais aussi à l'impression que leur dette est soutenable. Or, cette dette est très lourde dans les deux cas. 123,3% du PIB pour l'Irlande, 128% pour le Portugal. Soutenir la Grèce dans sa volonté de renégocier sa dette serait compris immédiatement par les marchés comme un signe que ces deux pays souhaitent à leur tour entrer dans une phase de restructuration. Immédiatement, les investisseurs privés, qui, grâce à la gestion de la crise grecque par l'Union européenne, la restructuration grecque de 2012 ne touchait que les investisseurs privés, savent qu'ils sont en première ligne, seraient plus prudents et réclameraient des primes plus élevées. La charge de la dette, déjà très lourde pour ces pays, en serait immédiatement augmentée et ce serait un problème pour les budgets nationaux. Je rappelle que la charge, c'est les intérêts qu'on paye sur le capital. Deuxième raison, elle est politique. On vote au Portugal en septembre prochain, en Espagne en novembre et en Irlande au printemps 2016. Or, les gouvernements qui ont mené l'austérité, malgré leur « brillant » entre guillemets bilans économiques, sont en grande difficulté et devraient perdre ces élections. En Irlande comme au Portugal, malgré la croissance, le chômage reste beaucoup plus élevé qu'avant la crise, les revenus sont plus faibles, la précarité a progressé. Les coalitions au pouvoir sont donc sanctionnées. C'est intéressant de rappeler ça parce que ça évite de prendre pour faux modèles et transformer en arguments à base de faux modèles des idioties pour essayer de demander aux Grecs de faire des choses impossibles. Au Portugal, le baromètre Eurosondagem, c'est le nom de la société, je suppose, du 8 février, accorde 33,6% à la coalition au pouvoir contre 38,1% au Parti socialiste d'opposition. L'équivalent portugais du Podemos espagnol n'est pas pris en compte, mais on remarque une forte hausse, entre guillemets, des autres. En Irlande, le gouvernement Fine Gael Labour est actuellement fortement sanctionné dans les sondages, tandis que la gauche anti-austéritaire du Sinn Féin, continue à progresser. En Espagne, le parti de Mariano Rajoy doit faire face à la montée de Podemos et pourrait perdre les élections de novembre. Les gouvernements qui s'expriment sur la Grèce sont donc des gouvernements sur la défensive. Toute concession faite à Syriza serait un message politique négatif envoyé avant le scrutin. Ce serait le signe que cette politique menée a été une forme d'échec et que, partant, l'opposition a raison de demander une politique plus équilibrée. Ce serait un suicide politique, et c'est bien plutôt ces considérations que les postures morales qui expliquent la fermeté de ces pays face à la Grèce. Alors là, je trouve qu'on a un article vraiment éclairant, vraiment intéressant, qui nous ramène dans la réalité.
Oui, et je rappelle que l'heure tourne pour les Grecs, puisque à la fin du mois, théoriquement, il n'y aura plus d'aide économique et financière à la Grèce, plus d'argent dans les coffres de l'État. Actuellement, on offre à la Grèce de reconduire le programme quelques mois encore, mais le programme, pas l'aide financière. Seulement ce que les Grecs demandent, le programme, ça veut dire abdiquer votre capacité législative, notamment en matière de droit du travail. Vous laissez les banquiers de l'Europe décider ce qui se passe chez vous. C'est ce qui est profondément insupportable pour les Grecs. Je commence immédiatement en vous parlant de Québec, de la ville de Québec, pour être plus précis. Et je ne sais pas comment je vais vous en parler. Est-ce que je parle de vision, de mégalomanie ou d'émulation? De quoi je vous parle? Je vous parle d'un projet immobilier qui va être construit immédiatement à l'entrée de Québec, à côté du nœud d'autoroute, là, quand on traverse les ponts. 4 tours, 2 tours de 30 étages, 1 tour de 25 étages et pour terminer le bouquet, 1 tour de 65 étages. Ça, c'est 10 de plus que le plus haut édifice de Montréal, pour vous donner une idée. Ce serait le plus haut édifice à l'est de Toronto, au Canada. Ce grand, grand projet immobilier donc prend place dans ce qui est un désert de parking, de centres d'achat, d'immeubles dispersés. C'est censé être un immeuble phare pour l'arrivée à Québec. C'est un souhait de l'administration La Baume autant que du promoteur, qui est le groupe Dallaire dans ce cas-ci. Je trouve ça intéressant. Intéressant parce que, d'une part, tiens, car à Montréal, on construit un nouveau pont qui va être un pont signature. Eh bien, à Montréal, on veut un édifice signature pour l'entrée de la ville. Je ne sais pas si c'est de l'émulation. Je ne sais pas si c'est de la mégalomanie parce que 65 étages, c'est modifié. C'est planter une aiguille à l'ouest de Québec. Je ne sais pas encore comment me prononcer sur ce projet.
Eh bien, moi, je vous ramène à terre plus bas que ces 65 étages. Et pour vous dire qu'à HEC Montréal, où on étudie à peu près n'importe quoi, ça veut, je veux dire beaucoup de choses, hein, je ne veux pas dire n'importe quoi au mauvais sens du terme. Eh bien, on a étudié ce que représentait texter en marchant, donc au bas de votre tour de 65 étages. On savait déjà qu'au volant, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Eh bien, en marchant, on augmente de 32,7% le risque d'accident. Alors, il faut arrêter de texter. D'abord, ça vous donnera l'air plus intelligent. Et puis ensuite, ça ramènera la ville à ce qu'elle doit être, un espace de convivialité où peut-être de temps en temps, on peut se parler.
Et pensez, si vous textez en marchant, que vous croisez peut-être une voiture qui texte au volant. Alors, c'est un peu anxiogène. Musique et radio, tiens. Bon, vous le savez, à cette émission notamment, on a 3 pièces musicales au complet, des pauses musicales qui interviennent. Est-ce que ces musiciens-là sont assez payés? D'après Francis Vaille et... une recherche qui a été produite par Marcel Boyer de l'Université de Montréal, non. On devrait les payer 2,5 fois et demi plus, puisque si on compare l'importance des pièces musicales aux interventions médiocres des animateurs ordinaires, disons-le, à la radio, eh bien, la valeur réelle de leur contribution devrait être plus honorée par leur rémunération. Voilà.
Ça faisait un certain temps que je ne m'étais pas réjoui de l'abandon des lunettes Google par la société du même nom. Bah, j'en profite pour me réjouir à nouveau. Mais figurez-vous qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur les yeux. Et notamment l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle a mis au point un truc extraordinaire. C'est une lentille de contact qui permet de zoomer. Et alors, vous clignez de l'œil et vous pouvez agrandir l'image, enfin, ce que vous regardez, 2,8 fois... multiplié par 2,8. Alors c'est génial pour les personnes âgées qui ont besoin de lire. Hop, je cligne l'œil et je peux lire mon bouquin.
Ah non, c'est effectivement génial. Et puisqu'on en est à saluer des percées dans la recherche, un gros bravo à l'Université de Sherbrooke qui a développé une façon de produire des isotopes pour la médecine nucléaire sans réacteur atomique à partir d'un simple cyclotron. Un simple cyclotron, vous allez me dire que c'est un oxymoron comme proposition, vous n'en avez pas dans votre cuisine, mais c'est quand même magnifique comme percée. Ça pourrait amener les hôpitaux à devenir indépendants en technétium, ce qui est une denrée rare et très, très périssable, très dispendieuse aussi. Voilà, c'est ce qui termine cette édition du 19 février de Kiosque Magazine. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Nous remercions aussi Rémi Hermoso d'avoir assuré la mise en onde et les choix musicaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on vous invite à demeurer à l'écoute pour la revue de presse de Clotilde Seille. Au revoir. Thank you.